Oh les beaux jours, le podcast des frictions littéraires. Oh les beaux lecteurs, oh les belles lectrices. Un épisode hors série pour plonger dans les coulisses des actions culturelles du festival. Sous l'égide des bibliothèques de la ville de Marseille, un groupe de lecteurs et de lectrices a échangé durant plusieurs mois autour du dernier roman de Véronique Ovaldé, Fille en colère sur un banc de pierre. La critique littéraire Elodie Caraki les a accompagnés, leur livrant les ficelles de son métier pour qu'ils décortiquent l'œuvre et préparent un entretien avec l'écrivaine au plus près de son texte. Une rencontre un peu différente avec Véronique Ovaldé donc, animée par les beaux lecteurs Marouane El Amiri, Ludovica Mataroso et Laurence May. Et enregistrée en public en mai 2023 à la bibliothèque de l'Alcazar, à Marseille, lors de la 7e édition du festival Oh les beaux jours.
Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Bonjour Véronique Ovaldé. Donc nous sommes ici pour cet entretien un peu particulier, donc pour parler de votre dernier livre, donc paru en 2023 chez Flammarion, donc Fille en colère sur un cœur de pierre. Sur un banc de pierre, évidemment. Non, mais ça, c'est le stress, hein, c'est la première fois, ça va aller. Non, mais voilà. Donc juste, voilà, pour les petites modalités, cet entretien, il durera une heure. Après, on va prendre quelques questions du public et après, on pourra partir pour un peu de dédicace de votre livre. Pareil pour la page, ça va aller. Hein. Donc j'évoquais à l'instant le caractère un peu particulier de l'entretien. En fait, parce que s'il faut savoir que là, on a Laurence et Fortuna qui vont le conduire. En fait, il résulte d'un travail collaboratif d'une douzaine d'amateurs et d'amatrices passionnés qui se sont réunis depuis début mars cinq fois à la bibliothèque des 5 avenues. Guidé par la critique littéraire Elodie Caraki qui est là et la chargée de l'action culturelle Maïté Léal que nous tenons toutes les deux à remercier chaleureusement. Ces rencontres furent l'occasion pour nous de discuter entre nous, de nous plonger dans ce livre, de confronter nos points de vue et d'évoluer sur nos positions critiques. C'est par le débat, parfois vif, mais toujours respectueux, et en prenant la mesure des réflexions de chacun, que nous avons pu approfondir nos lectures et parvenir à ce qu'on espère, une riche discussion, donc qu'on va vous présenter tout à l'heure. Pour vous présenter rapidement, Véronique Ovaldé, vous avez écrit votre premier roman, Le sommeil des poissons, en 2000 aux éditions du Seuil. Depuis, on suivit 14 romans et deux recueils de nouvelles, parmi lesquels Et mon cœur transparent, donc prix France Culture Télérama en 2008, Paris aux éditions de l'Olivier, et Ce que j'essaie de Vera Candida, donc chez le même éditeur un an plus tard, et prix Renaudot des lycéens, et notamment qui a pu être parcouru par plusieurs des lectrices du groupe. Vos histoires sont souvent habitées par des héroïnes complexes et combatives et se déroulent à la lisière de l'irréel, revêtent parfois un aspect surréaliste et onirique qui les rapproche un peu du conte. Et elles sont aussi portées par un style bien particulier, à la fois poétique et évocateur. Ces aspects, nous les retrouvons dans le livre, du coup, votre dernier livre, Fille en colère sur un banc de pierre, qui suit le retour d'Aïda sur son île natale à la mort de son père. Donc sur Yadza, cette île fictive au large de Palerme, donc cette île suspendue dans le temps, à la beauté un peu déclinante et aux valeurs rétrogrades. Sur Yadza, donc qu'elle a quittée il y a 15 ans, elle devra faire face à son passé. D'ailleurs, elle entend son père le lui dire lors de son enterrement. Maintenant que je suis mort, on va pouvoir parler. Parler, oui, et notamment parler de quoi? Donc parler peut-être de sa responsabilité dans la disparition inexpliquée de Mimi, donc la Benjamine de la fratrie, qui avait 6 ans à l'époque, un soir où, encore juste fillettes, elles sont enfuies en douce de la maison pour aller assister à un carnaval, ce qui était interdit par leur père. Disparition d'ailleurs qui aura des conséquences, et qui obligera plus tard Aïda, lorsqu'elle devient adolescente, à s'exiler de sa famille et à partir de l'île. Donc, dans le livre, son retour est l'occasion de renouer avec sa mère, avec ses sœurs, donc Gilda et Violetta, et Leonardo, donc son ex-copain devenu beau-frère, et permet aussi au livre, du coup, de traiter de tous les thèmes de la cellule familiale, de cette violence banale qu'il est impossible à fuir, de ses secrets, de ses faux-semblants, des conséquences d'un patriarcat assumé aussi, Et tout ça sur fond d'une île un peu claustrophobique où règne une folie, une atmosphère de folie, et toujours dans cette famille où l'ombre de Mimi n'est jamais vraiment partie. Le tout, du coup, est porté par une écriture très visuelle, olfactive même, et surtout d'une grande fluidité. Le style nous emporte sans friction, de phrase en phrase, virevoltant entre les idées, un peu comme la pensée humaine, et appuyé aussi par une narratrice qui est là, qui est très présente, presque omniprésente. Évidemment, entre l'universalité du thème de la famille, l'originalité du style et la présence de la narratrice, ce livre a suscité de nombreux débats. Donc, par exemple, l'évolution de Leonardo, cette figure paradoxale du père dont on peine à saisir les contours, les interventions de la narratrice aussi, évidemment, la fluidité du style, on en a parlé, et même la fin. Et du coup, tout cela fait l'objet entre nous d'échanges passionnés, et on espère que la passion qui s'est dégagée lors de ces échanges sera visible lors de cette discussion. Et du coup, voilà, je vous laisse la parole, Laurence et Fortuna, pour conduire l'entretien.
Bonsoir, tous et toutes. Et bon, en premier lieu, nous aimerions savoir d'où vous êtes venu, votre inspiration. Quelle a été l'étincelle qui vous a poussé à écrire ce roman ?
Bonjour à tous, merci d'être là, si nombreux. Et puis c'est drôle de savoir qu'il y a eu des débats vifs autour de mon livre. J'espère que ça a été quand même. Alors l'inspiration, c'est toujours un peu mystérieux l'inspiration. Comment un livre advient, c'est toujours un peu spécial. Alors en ce qui concerne les miens, en général il y a une image, quelque chose qui surgit une nuit, parce que j'écris la nuit, j'écris vers 3h ou 4h du matin, et je me lève et je vais à mon bureau et je commence à écrire. Et là, j'ai vu ces deux petites filles, comme vous le disiez tout à l'heure. En effet, elles ont un soir de carnaval, elles décident de faire le mur. Et enfin, disons, l'une des filles de la famille décide de faire le mur. Elle a 8 ans et sa petite sœur de 6 ans la supplie de l'accompagner. Et en fait, bon, voilà, il y en a deux qui partent cette nuit-là, cette nuit de carnaval, et il n'y en a qu'une qui revient au matin. Et j'ai vu, en fait, ces deux petites gamines, en fait, faire le mur. Il y a eu ça, et il y a eu le lieu aussi, parce que j'ai senti l'odeur du maquis, l'odeur de l'eucalyptus, et j'ai senti quelque chose de très sec comme ça. Je me suis dit, bah oui, c'est là-bas que ça se passe, sur cette île un peu... cette île imaginaire, bien sûr, mais qui est une île qui ressemble à beaucoup d'îles de Méditerranée et qui est vraiment sèche comme un caillou et qui est totalement aride et qui en même temps est baignée de soleil. Et quand je dis en même temps, c'est parce qu'en fait, il y a quelque chose de très doux dans ce soleil qui est là avec une végétation magnifique tout un tas d'animaux, d'oiseaux. C'est beau, il y a beaucoup d'oiseaux. On m'a fait remarquer qu'il y a beaucoup d'oiseaux sur mon île. Et en effet, j'avais ce lieu qui est arrivé assez vite. Et je me suis rendu compte après coup, comme souvent, que je voulais parler de la famille. Et vous disiez à l'instant, en fait, la famille, c'est un écosystème intéressant. C'est un écosystème dans lequel on peut explorer toutes les passions. Évidemment, il y a l'amour entre les personnages, mais il y a aussi dans les gens d'une famille, mais il y a aussi la compétition, la jalousie, il y a des choses assez violentes, évidemment. Et puis il y a des secrets, évidemment, dans toutes les familles. Et ça, c'est quand même quelque chose de hautement intéressant, hautement romanesque. Et puis les familles, voilà, je crois que je me suis rendu compte que je voulais écrire un livre sur la famille. Et les familles, c'est ce qui nous est tous commun, qu'on en ait une ou qu'on n'en ait pas. En tout cas, on en a, quand je dis que c'est commun, même si on n'en a pas, c'est que ça nous tarabuste d'en avoir ou pas, d'en avoir une qu'on aime ou une qu'on a fui, une qu'on a choisie. Enfin voilà, il y a tout un tas de motifs différents autour de la famille. Et c'est quelque chose que je trouve de fort intéressant. Il s'avère que j'écris pas des livres directement autobiographiques, mais force est de constater que quand j'ai commencé à écrire ce livre, c'était en 2019, et mon père venait de mourir. Mais j'ai jamais voulu écrire un livre sur la mort de mon père. Mais le début du livre, alors vous avez cette scène avec les deux petites filles qui s'en vont, qui font le mur, mais ça fait, c'est le prologue, donc ça fait deux pages. Et la scène d'après, ça se passe bien longtemps après. Et c'est la Aïda qui reçoit un coup de fil, elle habite à Palerme, elle reçoit un coup de fil où on lui annonce que son père est mort et qu'il faut qu'elle retourne sur l'île. Donc c'est troublant comme voilà, tout est présent, tous les éléments de nos vies quand on écrit un livre sont présents et se mettent à infuser pour donner quelque chose. Voilà, je ne sais pas si ça répond tout à fait à votre question, mais à peu près.
Alors, non seulement ça répond, mais ça enchaîne justement avec, avec la suite, puisque, en fait, dès la première rencontre, on a pu avoir un sentiment de lecture collective, d'une sorte de contraste, justement, entre la voix de la narratrice, qui est claire, qui est présente, etc., et justement des personnages laissés pour partie à l'imagination du lecteur. C'est-à-dire que, comme vous le dites, hein, on est plongé au cœur d'une histoire familiale, qui donc peut aussi nous être familière par ces situations, par ces paroles, par ces silences ou ces non-dits aussi. Donc, est-ce que c'était justement votre volonté, par ces choix, que le lecteur puisse s'identifier au personnage ?
Alors, je crois qu'en fait, je ne pense pas au lecteur quand j'écris. Heureusement, je crois. Parce que si on pense au lecteur, quand on écrit, on aurait tendance à faire quelque chose d'un peu... trop consensuel, voyez. Et il faut pas. Alors c'est drôle parce que j'étais en train de penser à quelque chose tout en le disant. Ça me rappelle mon premier éditeur il y a très très longtemps, celui qui a publié Le Sommeil des Poissons. Il m'avait dit si on vous parle de vos défauts, faut les accentuer. En fait, après, ça deviendra votre style. Bon, ça, certains disent ça, certains éditeurs disent ça. Bon, c'est pas toujours le cas. Mais c'est drôle, cette idée-là, parce que justement, ça veut dire qu'il faut pas tout le temps se poser la question, se dire comment je vais être lu. Je pense que ça serait très dangereux. Je crois que dans cette salle, il y a sans doute des gens qui écrivent, et je sais en tout cas qu'il y a des éditrices qui sont là, des éditeurs, et je pense que c'est quelque chose qu'on sait, c'est qu'il faut. On voit, en fait, quand un écrivain ne pense qu'à son lectorat. Et alors, parce qu'en plus d'être autrice, je suis éditrice, c'est une petite partie de ma vie, mais c'est, en tout cas, je lis des manuscrits et en fait, c'est quelque chose qu'on détecte tout de suite, qu'on voit en fait. Si quelqu'un écrit pour être lu, pour être apprécié, et donc pour être le plus consensuel possible. Bien et sûr. En fait, c'est un peu. Voilà, ça fonctionne moins bien comme ça, il me semble. Mais je suis un peu partie sur mon truc là.
En fait, c'était plutôt par rapport au fait que les personnages ont quand même des contours qui restent encore parfois pas très définis. Du coup, ça permet peut-être une identification.
Alors, peut-être, mais l'identification.
En tout cas, c'est ce qui est ressorti.
Ouais, parce que moi, j'avais l'impression quand même qu'ils sont en général assez campés, ces personnages. Ils ont chacun une personnalité. Alors moi, je dis pas comment ils sont. C'est-à-dire que je suis la narratrice. Je ne dis pas ils sont comme ça, il est comme ça, il pense comme ça et il est ce genre de personne. Mais on va comprendre à qui on a affaire à travers ce qu'il dit, à travers son comportement, et ça va nous aider en tout cas, ou ça va aider le chacun d'entre nous, que ce soit moi aussi d'ailleurs, hein, parce que je les rencontre au fur et à mesure, ils prennent forme, hein, ils s'incarnent, comme on dit. Donc c'est vraiment, ils deviennent chairs, et peu à peu. Donc évidemment, c'est aussi comme ça que moi je vais les faire advenir, ces personnages-là. Et j'ai pas l'impression en effet qu'ils soient flous. Pour moi, ils sont vraiment là. Aïda, elle a une personnalité. Gilda aussi, Violetta aussi, elles sont très différentes. Alors, c'est très drôle parce que tout à l'heure, vous disiez fratrie. C'était un truc qui m'embêtait, ça, au début. Le coup de la fratrie. J'avais dit à Benjamin de la fratrie. Et au début, quand j'ai parlé de ce livre, c'était quelque chose qui me perturbait. Parce que, évidemment, il y a que des sœurs. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait un mot pour ça. Enfin, elles ont dit la sororie.
La sororie, du coup.
La sororie, ouais. Et c'est drôle parce que c'est un mot qui n'est pas du tout utilisé dans le langage courant. Alors pourquoi pas, en fait. On pourrait se dire, mais c'est quand même ça paraît quand même pas non plus, c'est pas fou en fait, hein, utiliser ce mot-là. Et ça paraît plus difficile de dire, alors c'est une fratrie, donc c'est quatre, mais attention, c'est des sœurs, c'est des filles, bon. Et sorori, c'est un mot en fait de sociologue, parce que les sociologues, bah, eux, si c'est des filles, mais ils disent c'est une sororie, enfin ils vont pas non plus. Ils vont pas se poser mille questions là-dessus, c'est technique. Alors que c'est d'ailleurs intéressant de dire que nous on n'utilise que le mot fratrie, mais enfin je vous apprends pas que le langage est politique. Et donc voilà, donc je faisais un petit aparté. Enfin, je fais tout le temps des apartés. Et donc en fait, par rapport aux personnages eux-mêmes, je crois qu'ils sont, je sais pas comment dire, c'est que pour moi, quand même, ils ont un contour assez précis, même si vous avez dit tout à l'heure à propos de Leonardo, qu'en effet, il y a un changement très fort entre le premier Leonardo, le début du livre. On a un Leonardo début du livre et on a un Leonardo de fin du livre.
Alors, si je peux me permettre, Leonardo a suscité énormément de débats, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir. Mais en tout cas, voilà, c'était notamment en contraste entre la voix de la narratrice et les personnages. Et justement, par rapport à la voix de la narratrice, je crois qu'on a d'autres questions.
Parce que cette voix, on l'a vraiment ressentie comme présente et très active tout au long du texte. Par exemple, pour mieux la repérer dans sa fréquence et sa diversité, nous avons fait même une relecture du livre en se le répartissant par petits groupes. Et qu'on a remarqué, c'est vraiment la diversité de toutes les interventions. Il y a des commentaires d'ordre général sur les personnages, il y a beaucoup de commentaires sarcastiques aussi. Par exemple, on a repéré à page 32. Avant tout, il faut préciser que leur père était un passionné d'opéra et son épouse, pour lui être agréable. Parenthèse, cette déplorable tendance foncièrement inutile avait proposé de donner à chacune de leurs filles un prénom en rapport avec sa marotte. On a repéré bien sûr des gestes, des adresses au lecteur. Il lui arrive aussi de poser des questions, comme quand la narratrice elle nous demande « On fait quoi d'un amour si encombrant ?» Ou même quand la voix elle exprime des doutes. Ou encore la façon dont le chapitre 5 il souffre. « Je pourrais écrire quelque chose comme... » Et du coup, on se demandait pour quelles raisons tous ces apartés, toutes ces intrusions de la narratrice dans le cours du récit.
Alors on a même formulé une hypothèse. On s'est demandé est-ce que c'était pour alléger l'histoire dramatique de cette famille et surtout celle d'Aïda. Et peut-être, qui est-ce que vous avez voulu ménager? Est-ce que c'est l'auteur ou le lecteur?
Alors, en fait, cette affaire de la narratrice, un personnage qui parle, enfin, qui, c'est une voix, en effet, qui intervient, qui donne son avis, qui est, en effet, souvent sarcastique, qui fait de l'humour, qui fait un petit pas de côté, en fait, par rapport, en effet, à une histoire qui est une tragédie. Et cette voix, en fait, c'est la mienne, c'est celle que j'ai, c'est ma petite voix, qui est toujours en train de commenter tout. On a tous une petite voix qui commente. Et vous savez, ce commentaire parasitaire, permanent, partisan, qui donne son avis sur tout, ben voilà, je l'ai aussi, évidemment. Et quand j'écris, j'ai la petite voix, évidemment, qui me parle, qui parle, qui donne son avis sur tout, et qui fait des apartés et des digressions. Et donc, quand j'ai cette petite voix-là, elle intervient. Elle était déjà intervenue à plusieurs reprises dans plusieurs de mes livres. Parce que ça fait longtemps que j'écris plus des romans qui sont à la première personne. Qui sont écrits à la première personne. Donc, mais j'ai beaucoup de mes livres, en revanche, qui sont écrits à la troisième personne, mais qui ont des titres à la première personne. Par exemple, Ce que je sais de Vera Candida, dedans, il n'y a pas de « je ». Dans « Et mon cœur transparent », il n'y a pas de « je ». Et on a... Et donc, c'est quelque chose qui est très présent. Presque ce pacte d'écriture et ce pacte de « je suis l'écrivain, je suis l'auteur » et je ne fais pas comme si je n'étais pas là. Je suis là. Et je vous raconte une histoire. Et je suis là, et donc je donne mon avis, et je fais des remarques plus ou moins sympathiques sur mes personnages. Je m'adresse en effet au lecteur, et ça c'est quelque chose de que j'ai vraiment, je me suis vraiment permise cette liberté-là dans le texte, tout comme à la fin du texte où je dis bon, je pourrais les laisser là, ces deux personnages, je pourrais voilà. En fait, c'était presque logique au moment où j'ai écrit ce livre que enfin je laissais parler cette petite voix parasitaire permanente là qui m'encombre. Elle est vraiment là et c'est drôle parce que quand je l'ai donné le texte à mon éditrice, je me suis demandé si c'était agaçant ou pas.
Et alors moi j'ai une réponse parcellaire en tout cas ou qui témoigne des positions de certains d'entre nous, donc qui se sont sentis pour certains quelque part presque pris en otage. C'est une expression qui est ressortie par justement cette omniprésence de la narratrice, mais c'est aussi pour d'autres ce qui les a motivés à poursuivre la lecture et à qui les a vraiment happés dans le récit.
En otage, je vois pas bien. Enfin, autant je peux comprendre que ça peut être agaçant, mais la prise d'otage, je vois pas.
Alors, je ne sais pas, parce que je ne peux pas vous dire exactement. Peut-être ils pourront en témoigner
oui,
tout
absolument.
À l'heure. Mais je pense que c'est par rapport aux commentaires, etc., aux prises de position qui sont forcément personnelles, mais qui, du coup, peut-être les a... Voilà. En tous les cas, c'est quelque chose qui n'était pas neutre pour nous, lecteurs. Et est-ce que, du coup, ça vous... Apparemment, oui. Est-ce que ça vous étonne? Apparemment, oui. Et est-ce que, du coup, est-ce que vous imaginiez le poids de cette voix auprès du lecteur en l'écrivant? Est-ce que vous pensiez qu'on allait vraiment la...
Non, alors je ne pensais pas que ça serait aussi... présent et qu'on m'en parlerait autant. On m'en parle beaucoup et c'est dans les articles de presse, dans les critiques. En fait, c'est très présent. On me parle beaucoup de ça et de cette voix de la narratrice. Moi, qui me semble pas. Alors déjà, en plus, c'est un procédé qui existe depuis que le monde est monde. Hein, en littérature, enfin, quelqu'un qui donne son avis et qui raconte l'histoire et dans les textes classiques. Du 18e, vous avez beaucoup ce genre de choses. Et puis, dans des textes plus récents, hein, bien entendu. Alors, mais c'est vrai que là, je me suis j'étais heureuse de m'offrir à moi-même cette possibilité. Après, je me suis demandé si c'était pas un peu agaçant. Et finalement, j'ai bien vu qu'il y a plein de gens à qui ça faisait plaisir, en quelque sorte, d'être emmené pour de vrai dans une histoire. C'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est que comme j'écris pas des textes autobiographiques, j'écris pas de l'autofiction, j'écris pas des textes qui racontent aussi quelque chose qui s'est réellement passé. Vous savez, sur les bus, on voit toujours, il y a toujours une affiche de film, et en haut, il y a écrit d'après une histoire vraie, comme si ça donnait une validité supplémentaire à ce qui vous est raconté. Alors, je fais pas du tout ça. Moi, j'ai vraiment les deux pieds dans la fiction, mais je ne fais pas semblant de ne pas écrire une histoire. Donc, là, j'ai vraiment décidé d'être vraiment l'autrice et la narratrice qui vous invite à dans cette histoire.
On a été invité, emporté pour le coup.
Oui, parce que en fait, après la lecture de Fille en colère sur un banc de pierre, on a voulu lire ce que je sais de Vera candidat, parce que quand même il y a des similarités déjà, et on a remarqué pas dans les différences cette côté atypique et une sorte de prise d'auteur avec le récit. Dans Fille en colère, qui est très régulièrement interrompue par cette voix que vraiment elle est tellement forte, on l'a reçue tellement fort que presque on l'entend. Et du coup, on s'est demandé si c'était cela le but à vous de ce que vous
dans
avez.
Dans Vera candidat aussi
non, 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 dans Vera candidat. Justement, dans Vera candidat, il y a une voix, mais comme vous avez dit tout à l'heure, il n'y a pas un jeu.
Elle est, oui, et elle est. Alors, c'est vrai qu'il y a toujours eu ça dans tous mes livres. Il y a un jeu sur la digression, l'aparté, la parenthèse, qui est le pas de côté dont je parlais. Donc, je raconte quelque chose et en même temps, je donne un autre point de vue. Alors, soit c'est le mien, soit je suis plus neutre, mais en tout cas, je donne un autre point de vue que simplement la scène qui vient d'être racontée pourrait nous, la façon dont elle est exposée là. Je crois que c'est ma complexion mentale qui est comme ça en fait. Donc je regarde quelque chose, j'écoute quelque chose et je suis en même temps toujours en train de penser avec la petite voix parasitaire, de penser à la scène d'ailleurs. En général, quand je vis une scène, mais ça c'est le truc des écrivains en général, quand j'entends quelqu'un, je vis une scène, en fait je suis en train déjà de me la raconter. Donc vous voyez, ils étaient toujours, bon c'est un petit peu schizophrénique, mais c'est un peu le jeu, hein, des écrivains en général. Et donc voilà, donc c'est vrai que c'était moins présent dans les autres, mais c'était quand même, ça a toujours été là, ce truc de, allez, je me permets parenthèse, et ce jeu de poupée russe, en fait, est quelque chose qui correspond, encore une fois, simplement à ma complexion.
Alors justement, de la même façon que cette voix, le style n'a laissé personne indifférent. Donc il a tenu nos lecteurs en haleine, donc et a participé à la poursuite de la lecture. Donc sur les principaux aspects qu'on a pu relever, on a son côté vraiment fluide, le fait qu'il produise du rythme, son côté effectivement comme l'évoquait Marouane, hein, très visuel, évocateur, le fait que ben, peut-être comme vous, quand vous parliez de Lille, c'est vrai qu'on a aussi eu à la lecture des impressions parfois olfactive, enfin vraiment quelque chose de très présent, d'être présent dans les lieux. Certains, on a parlé d'une vibration de la vie. Donc je vous le
vibration
de la vie. Voilà, je vous le livre tel quel. On a également des longues phrases qui vont servir l'aspect temporel du récit, qui avec une espèce d'accélération du temps. Et puis il y a ces fameuses listes qui nous ont marquées, que ce soit les peurs ou les choses qu'aime Aïda, par exemple. Donc, est-ce que vous pourriez nous raconter finalement comment vous avez travaillé cette langue ? En fait, quelles sont les coulisses, quelque part, le travail d'artisan qu'il y a derrière tout ça ?
Ah, le travail d'artisan. Alors, en fait, c'est pas si travaillé que ça, dans le sens où ça se sentirait trop, je pense. Vous savez, quelque chose qui est vraiment retravaillé. Alors, à propos des listes, Dans tous mes livres, il y a des listes. J'ai une espèce de... J'aime la poétique des listes. Ça m'amuse beaucoup, les listes. Et ça... Dans mon précédent livre aussi, il y avait des listes. Dans Personne n'a peur des gens qui sourient, il y en a toujours des listes. Il y a quelque chose de... Il y a quelque chose qui me plaît, en fait, dans les listes. C'est une façon de cartographier le réel. Vous voyez ? Et qui me réconforte d'une certaine façon. Donc j'aime bien en fait ce genre de choses. Alors disons ça vient très facilement. C'est-à-dire qu'en fait c'est pas justement c'est pour ça que je vous dis que c'est pas retravaillé 1000 fois. J'ai le texte lui-même, il correspond en effet, la façon dont il est écrit, il correspond complètement, et vous l'aurez compris, à ma propre musique, à mon propre ce que je disais la complexion mentale, à ma propre rythmique. Donc c'est pas quelque chose qui est forcé, c'est quelque chose qui correspond à ma façon de m'exprimer, à la façon dont les pensées s'imbriquent. Pour moi, et la manière dont je regarde le monde autour de moi, et dont je regarde, et dont je évidemment dans l'introspection aussi, la manière dont je regarde en fait ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc finalement, c'est pas un vrai travail de longue haleine là-dessus, même si c'était très long d'écrire ce livre, j'ai mis 4 ans à l'écrire. Pas tout à fait, mais presque. Et donc, la manière dont je travaille, alors, d'un point de vue artisanal, hein, je travaille, comme je disais, je travaille la nuit, j'écris la nuit, parce que j'ai l'impression que, justement, enfin, c'est pas pour ça que je travaille la nuit, c'est plus compliqué que ça, c'est qu'en fait, je suis insomniaque, donc en fait, je me réveille, à partir du moment où je me réveille, plutôt que de cogiter et de faire des plans sur la journée du lendemain où tout va être catastrophique, parce que vous avez comme remarqué que c'est fou, comme les pensées de nuit, les pensées nocturnes. En fait, vous êtes obligé de vous dire, mais pense à demain matin, pense à comment tu vas reprendre cette espèce de d'angoisse là qui est en train de tout prendre, prendre toute la place dans ta tête, quand il fera jour, eh bien tu vas voir, ça va te sembler complètement dérisoire. Et je trouve ça c'est vraiment bien le ça montre bien qu'on est des animaux diurnes, hein, et qu'on n'est pas du tout des animaux nocturnes. Alors malheureusement, je fais partie des gens, mais je suis sûre qu'il y en a aussi dans cette salle qui dorment très mal. Et donc comme je me réveille vers 3-4 heures, plutôt que de faire des crises d'angoisse et de complètement flipper ou de prendre des anxiolytiques, eh ben, je me lève et je me mets à écrire. Et ce moment d'écriture est un moment très particulier. Et c'est peut-être là où ça pourrait rejoindre l'idée de comment en fait ça se fabrique. C'est le fait de faire ça vers 4 heures du matin. 4 heures du matin, c'est une heure très spéciale parce que moi, j'habite à Paris et dans un quartier populaire, donc plutôt bruyant en général. Mais 4 heures du matin, il n'y a plus personne, en fait. Les lumières autour de vous, d'ailleurs, chez les gens, sont éteintes. Parce que les gens qui se couchent tard, ils sont quand même allés se coucher. Et ceux qui se lèvent tôt, ils ne sont pas encore levés. Et puis, les premiers métros, c'est à 5h, 5h30. Donc, bon, il n'y a personne. Et c'est un moment absolument génial. Un moment suspendu, parfait. Et c'est un moment aussi, et j'en reviens à ces pensées, ces cogitations insomniaques, là. C'est un moment très particulier qui est... Vous êtes entre la veille... Et le rêve, le sommeil, et
cette ambiance.
Oui, cette ambiance, mais cette prise avec l'onirique, c'est tout à fait fondamental pour moi dans l'écriture. En fait, il y a quelque chose qui est très libre à ce moment-là, et à tel point que quand je retourne me coucher vers 7 heures. Après, quand je relis pendant la journée, je relis ce que j'ai fait et je le reconnais pas bien. Un peu comme, c'est vraiment que c'est un truc, c'est pour ça que c'est lié à la nuit. Donc, la seule particularité, je dirais, de mon travail, dans le sens de un vrai travail, un vrai artisanat, c'est le fait de travailler la nuit et d'avoir cette espèce de confiance dans ce qui sort de ma pensée la nuit et de me dire bon bah voilà, je déroule quelque chose en pleine nuit et puis après je verrai ce que ça donne. Mais c'est un moment, mais c'est difficile à dire, c'est quand même, c'est un truc que je fais depuis que je suis toute petite fille, quoi. Donc c'est un truc que je fais presque automatiquement. Je me réveille, alors après j'ai bien bousillé mon sommeil, hein, donc en faisant ça, parce qu'après vous pouvez plus dormir normalement comme vous avez fait ça pendant tant d'années, mais c'est le moment, c'est, pour moi c'est le moment parfait de l'écriture. Mais il y a beaucoup d'écrivains qui écrivent la nuit, hein. C'est quand même un moment, alors un certain, il se couche très tard, moi je me rêve très tôt, c'est l'inverse, mais il y a quelque chose de très particulier quand même dans la nuit. Mais je pense que tous les gens qui se mettent qui branchent quelque chose en fait, qui est lié à l'imaginaire et à la pensée en marche, je pense que la nuit est assez propice.
Oui, moi je me permets par rapport à 4 heures de la nuit, bon, je pensais à une poésie de Wisława Szymborska, qui est poète polonaise, qui a écrit un poème fantastique sur les 4 heures du matin. Ah oui. Ah, oui, entre la veille et le rêve. Bon, mais retournons à nous. Et du coup, bon, parmi les sujets, on a soulevé aussi la forme narrative du conte. Parce qu'on est tous tombés d'accord que Fille en colère sur un banc de pierre s'apparente par plusieurs aspects à un conte. Il y a déjà le côté archétypal, universel, intemporel des personnages qui parlent à tout le monde, et cette mythologie familiale à travers les chapitres intitulés « Contes et légendes de la famille Salvatore ». Et du coup, déjà, on se demande si vous êtes d'accord avec notre interprétation, et qu'est-ce que ce genre, celui-là du conte, représente pour vous?
Alors, en fait, parce qu'avant, je me souviens, j'étais pas à l'aise avec l'idée du conte. J'ai toujours adoré les contes. J'ai toujours adoré ça. J'en ai toujours beaucoup lu. J'en lis toujours. J'aime ça. Mais j'étais un peu embêtée, à un moment donné, avec l'idée d'être une conteuse. Parce qu'on disait toujours, Valdé, les conteuses, une conteuse, une conteuse. Et en fait, j'avais l'impression que dans cette... Mais c'est quelque chose que j'ai déjà dit, parce que je trouve que c'est quelque chose qui me perturbait beaucoup. Parce que j'avais l'impression que si vous, vous étiez une conteuse, vous n'étiez pas tout à fait une écrivaine, pas tout à fait une autrice. Et vous étiez... Donc, et moi, je voyais... Et une conteuse, pour moi, c'était la dame, justement, de la bibliothèque municipale qui raconte des histoires aux enfants, qui avait son truc, avec sa petite robe en patchwork. Et qui... Et donc, ça a été... Et je me disais, ça me gêne un peu. Et en fait, là, grâce à ce livre, comme quoi, je vois ça, là, je me dis, je me suis dit, mais en fait, non, le conte, c'est glorieux. Le conte, c'est quand même quelque chose, on a tous aimé des contes. On a tous été fabriqués avec des contes. Et je suis sûre que si je vous demandais, je vous demandais à chacun d'entre vous, il y a un conte, quel conte, en fait, de quel conte il se souvient de son enfance, ça va être, ça sera pas du tout les mêmes. Les uns les autres, et c'est très fondamental et fondateur de ce qu'on est. Donc j'assume complètement, en fait, maintenant, le fait d'être une conteuse. Et voilà, je trouve qu'il y a une ambition dans le conte que c'est assez glorieux, le conte. C'est assez beau, en fait, cette histoire de conte. Et ce qui me plaît dans les contes, c'est justement la part de l'étrange. Et puis, ce que ça dit, c'est que ça dit des choses quand même de nous. Ça dit de quelque chose de nous, avec beaucoup de cruauté, beaucoup d'humour aussi. Les contes sont drôles, hein, souvent, et beaucoup de liberté. Et en fait, c'est quelque chose qui me... En fait, je vois bien que c'est quelque chose qui me correspond tout à fait. Alors, c'est pas directement des contes, c'est pas directement un conte. Il y a des contes et des légendes. Et il y a aussi des choses qui m'ont beaucoup marquée. Je me disais toujours, en fait, finalement... Dans les familles, on est fabriqué avec des contes. Je me disais toujours, chacune de nos vertèbres, en fait, c'est des histoires. Des histoires qu'on nous a racontées, des histoires qu'on a lues, des histoires qu'on a entendues, et des histoires de nos familles. Parce qu'on est tous fabriqués avec les histoires qu'on nous a racontées sur nos propres familles. On a tous des légendes familiales. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours... vraiment marqué. Si je demande à chacun d'entre vous, parlez-moi voilà, de votre famille, il y aura des histoires, des secrets, des étrangetés, des grands-mères qui n'étaient pas la grand-mère et qui finalement l'enfant adopté, c'était pas ça. Etc. Et puis des trucs un peu très légendaires. Moi, je me souviens, moi, toujours parler de mes grands-mères et de mes grands-parents. En général, j'ai jamais connu aucun de mes grands-parents, mais on parlait toujours de mes grands-mères et ma grand-mère, la mère de mon père disait toujours... pendant l'exode, elle est partie de. Elle habitait près de Paris. Elle est partie à pied à Bordeaux, parce que c'était des Basques, espagnols, donc il fallait retourner dans le sud. Donc elle est partie à Bordeaux à pied avec tous ses enfants. Elle avait 9 enfants. Et il ajoutait toujours, et elle avait les cheveux qui allaient jusqu'aux talons. Et alors, je voyais ça quand j'étais petite fille. Je voyais cette femme avec les cheveux noirs, là. Je la voyais même pieds nus, hein, avec les enfants derrière elle, dans la poussière. Et, je voyais... et c'est comme ça qu'on se fabrique des images. Cette femme, je ne l'ai jamais rencontrée. Je pense que c'était beaucoup moins glorieux que ça, pour le coup. Je pense qu'elle a dû faire 5 bornes et puis elle est retournée chez elle. Et elle n'est pas allée jusqu'à Bordeaux, ni jusqu'au Pays Basque. Mais c'est pas grave. Parce que c'est ce qui me reste de cette femme que je n'ai jamais rencontrée. Et on en a tous. Et moi, j'en ai plein. J'ai plein de trucs. C'est des histoires d'oncles, de tantes, d'histoires. Je me souviens aussi d'un de mes oncles. Mon père disait toujours, il est parti en Angleterre rejoindre De Gaulle. J'entendais ça quand j'étais petite. Rejoindre De Gaulle. Alors, je l'imaginais toujours avec De Gaulle. Et il est passé par l'Espagne. Alors ça me paraissait super bizarre. Parce que moi, je me disais, attends, c'est quand même compliqué. Donc, il vient de Paris, il passe par l'Espagne, et puis il remonte en Angleterre. Bon, évidemment, on passait par l'Espagne. Bon, il s'est retrouvé dans les geôles franquistes. Mais vous voyez, c'était des trucs, quand vous êtes petit, vous imaginez le truc, vous dites, c'est quand même très étrange. Et j'aime bien la manière dont ça se transforme aussi dans notre tête. Vous voyez l'histoire des cheveux jusqu'en des pieds. Moi, je l'avais même avec les pieds nus. Donc, on en rajoute. Et ça, c'était intéressant. C'est que c'est toujours en pleine croissance, les contes, les légendes. Et je pense, en effet, que c'est quelque chose qui nous est commun. À tous, on en a tous. Hein. Vous avez des histoires de famille et c'est quelque chose d'assez... Alors c'est marrant parce qu'en plus, en me parlant, je me disais, C'est quelque chose d'ailleurs qu'on échange assez vite quand on est amoureux de quelqu'un, je trouve. Au début, on raconte les légendes de sa famille. Vous trouvez pas ? C'est un truc dont on parle. On parle de sa famille. Alors souvent aussi, on se plaint de sa famille au début, parce que c'est bien.
Après, on se plaint de celle de l'autre parfois.
Pardon ?
Après, on se plaint de celle de l'autre parfois. Mais chut.
Oui, voilà. Donc il y a. Oui, mais au début, on fait ça et chacun voilà. Et en fait, on va être consolé. Et bien, on raconte aussi. On se raconte. Et la façon dont on se raconte est quelque chose de passionnant.
Alors du coup, peut-être qu'on va passer aux relations entre les personnages.
Du coup, les personnages de ce conte légende. Parce que oui, ben, on a bien sûr bien vu que dès les premières pages, cette relation, elles sont inévitablement conditionnées par la disparition de celle-là de Mimi, celle-là du vieux qui meurt. Est marqué du coup d'une violence qui se traduit parfois par des non-dites, par des silences. Par exemple, le personne n'entend la phrase de Mimi ou Gilda qui parle sans vraiment parler. Cette famille où on est obligé à se parler sans se parler vraiment, jusqu'à Sylvia qui arrive à parler toute seule. Du coup, on s'est posé la question de savoir si finalement le livre ne traite pas plutôt du silence que de la disparition, ou plutôt si c'est ce silence a participé à cette disparition. Si en l'appelant disparition, c'est parce qu'il y a ce silence dans cette famille.
Oh, c'est bien comme interprétation, j'aime bien. J'ai pas pensé au silence, mais il y a de ça, évidemment, plutôt dans les familles. En plus, on ne se parle pas dans les familles. On le sait bien. Et si on se parle souvent en contournant les choses importantes. Et c'est très juste. En effet, il y a Gilda qui parle. Mais en fait, elle parle pour ne rien dire. On dit souvent ça d'ailleurs de certaines personnes. Ils parlent pour ne rien dire. Mais elle fait la radio. Vous voyez, il y a des gens qui font la radio, ça, ils parlent tout le temps. Et c'est comme un bruit blanc, après. C'est un bruit de fond. Et puis, en effet, les grands silences. Et on a le grand silencieux qui était le père qui ne parlait pas. Et Salvatore, qui est un personnage ambivalent, mais un personnage qu'elles appellent sa seigneurie, et qui est austère, qui est morose, qui est maussade, un peu dur, mais pas seulement dur, il est aussi un homme, il est une espèce d'archétype archaïque de ce genre d'homme, de cette génération-là, et dans ce type de famille. Enfin, on a tous rencontré de ce genre de personnages. Et donc, oui, c'est intéressant cette idée que c'est plus un livre sur le silence que sur la disparition. D'ailleurs, en plus, c'est ce qu'il lui dit. Il lui dit maintenant que je suis mort, on va pouvoir parler. Et finalement, il ferme le cercueil et il ne pourra plus parler de toute façon. Donc voilà, ouais, c'est bien, ça me plaît ça.
Alors vous abordez deux points justement qui coulent de cette interprétation qu'on a pu avoir, c'est de savoir déjà comment on écrit des silences justement. C'est.
Bah alors là,
non, l'a ressenti, mais.
Tant mieux, alors c'est bien parce que c'est vrai qu'il y a le silence. Mais non, mais justement, le fait d'avoir des espèces de logorées, c'est comme un deuxième silence, c'est comme un bruit de fond, en fait. C'était un livre de Don DeLillo qui s'appelait. Alors en français, il l'avait appelé Bruit de fond, mais le titre en anglais, c'était White Noise.
Oui, c'est le bruit blanc.
Ouais. Mm-hmm. Et il y a eu un film d'ailleurs récemment. Et en fait, et dans le film, moi j'ai reconnu le film. J'ai reconnu que c'était le livre de Don DeLillo que j'avais lu il y a très longtemps, que j'avais beaucoup aimé, mais que j'ai lu il y a 20 ans. Et j'ai reconnu que c'était ça parce qu'il y avait la même chose dans le film que dans le livre, c'est que les personnages, en fait, sont en permanence en train de parler, mais ils ne se répondent pas. Et chacun est dans son cercle, et ils font des interruptions, ils s'interrompent, mais même ils ne s'interrompent pas d'ailleurs. En fait, ils ne s'entendent pas. Et j'avais trouvé ça très fort dans le livre, et dans le film c'est très bien rendu, et je pense qu'il y a de ça en fait dans mon livre. C'était aussi des personnes, il y a quelques dialogues, mais finalement il y a très peu de personnages qui arrivent à se parler. La majorité d'entre eux, ils font que ils interviennent, ils disent des choses. La scène, la dernière scène où il y a les trois sœurs qui sont invitées, elles sont toutes chez Gilda. En fait, on voit bien, elles n'arrivent pas à se parler. Elles sont chacune sur leur longueur d'onde. Puis elles n'arrivent pas à discuter.
Alors justement, cette figure centrale du père, donc Salvatore, est donc le sauveur, mais du coup avec un nom qui peut paraître ironique, puisque dans cette histoire, finalement, il a pas réussi à sauver les deux filles qu'il préférait, avec la disparition de l'une et l'exil de l'autre. On s'est posé la question de savoir si finalement, en mourant, il ne sauvait pas Aïda. Est-ce que son rôle de sauveur, il n'a pas tenu dans ses derniers instants ou dans sa disparition, finalement ?
J'aime bien que vous allez loin dans les interprétations. Je ne sais pas, mais je vois ce que vous voulez dire, parce qu'en fait, finalement, il l'a fait revenir. Et en la faisant revenir, là, elle va pouvoir comprendre ce qui s'est passé, et on va comprendre ce qui s'est passé ce soir de carnaval. Mais je ne l'avais pas pensé comme ça. Mais de toute façon, moi, je le voyais comme un homme très affecté, évidemment, par la disparition de la petite. Mais aussi, c'est un homme douloureux, c'est un homme plein de chagrin, je trouve, Salvatore. Et oui, pourquoi pas. Mais j'aime bien vos interprétations, elles sont bien. C'est pas celle que j'avais. Enfin, c'est pas automatiquement, mais c'est pas directement comme ça que je le fais. Mais heureusement d'ailleurs, parce que si je me disais, bon, alors, ça se fait comme ça, en fait, ça serait démonstratif, vous voyez. Alors, que vous le compreniez, vous l'analysiez. C'est très bien, c'est parfait, ça me va très bien. Mais si moi je voulais le faire comme ça, dans cette espèce de d'élan là, ça serait pas très naturel. Ça serait voilà. Alors je vous raconte une histoire et puis en plus de ça, je vais bien tout mettre en pointillé pour vous allez bien comprendre. Bon voilà.
Mais on a bien saisi justement là, je pense la complexité du personnage du père.
Exactement, oui, parce que on sait déjà le fait des prénoms des filles aussi. Qu'elles ont inspiré à des héroïnes d'opéra, que c'était bon, sa raison de joie du père. Et du coup, bon, on s'est dit, est-ce que c'est paradoxal de donner des prénoms des femmes quand même qui cherchent de l'indépendance, qui sont fortes dans des rôles, à des filles qu'il veut au contraire garder sous son jeu, son joug. Et du coup, on s'est demandé si on peut y voir une expression d'amour de sa part. Même si quand même il dit que n'avoir que des filles, c'est ne pas avoir des enfants. Et du coup, on se demandait si ce père, il n'est pas un personnage plus complexe, finalement.
Je pense qu'il est... Ah oui, je pense qu'il est complexe. En fait, je pense qu'il les aime. Alors, il y en a deux qu'il adore, mais et puis il y en a deux autres qu'il aime moins. Moi, c'est toujours été quelque chose que j'ai toujours trouvé étonnant, cette histoire dans les fratries ou dans les sorories encore plus. C'est la manière... La différence de traitement. Et en fait, ce que je trouve toujours d'une cruauté terrible, c'est que dans... Les enfants, en fait, on les compare tout le temps quand ils sont petits. Quand ils sont adultes aussi, mais quand ils sont petits, et particulièrement les petites filles, on les compare aussi sur leur physique. Ce que je trouve terrifiant, parce que en fait, une petite fille, qu'elle soit charmante ou pas, c'est pas elle qui le décide. Ça lui est donné ou ça ne lui est pas donné. Et on est tous sensibles à ça, malheureusement. Et c'était parce que l'autre fois, j'avais interrogé des instits. Elle m'avait dit, c'était des femmes, les instits en question, elle m'avait dit, elles avaient reconnu que dans la classe, elles interrogeaient plus facilement les enfants beaux. Et je me dis qu'on est... Mais, donc, malgré nous, en fait, il y a ça. Alors, si en plus, on est totalement dans un déni et qu'on avance aveuglément, ça peut quand même faire des catastrophes. Et c'est ce qui se passe dans cette famille avec les quatre filles. Elles vont être traitées différemment. Mais lui, il ne le fait pas. Il le fait sans malice, le père. Il y en a deux, juste, il en a deux qu'il préfère parce qu'elles sont plus drôles, plus charmantes, plus jolies, plus pétillantes. Voilà. Et puis les deux autres, elles sont un peu moins intéressantes. C'est comme ça. Et en fait, simplement, ça va créer évidemment une... C'est ça qui va créer la tragédie, qui va créer le drame. Alors ce qui est drôle dans l'affaire des noms, c'est que je les ai appelés... je voulais les appeler avec des prénoms d'opéra, puisque c'est des Samarotes, au vieux Salvatore. Et ce qui est rigolo aussi, c'est la manière dont les noms surviennent. Aïda, un jour, j'étais dans une salle, comme ça, et dans une librairie, et il y a un monsieur qui lève la main, et qui était allemand, et qui me dit, est-ce que vous savez que Aïda, sa fille. Il me dit, ma fille s'appelle Aïda. Et il dit, est-ce que vous savez ce que ça veut dire, Aïda? Je dis, non. Il me dit, la revenante. Alors, je trouve ça génial.
Ça ne s'invente pas.
Et quelques jours après, un autre monsieur me dit ça. Et lui, il était africain, il était congolais. Et il me dit, sa nièce s'appelle Aïda. Et il me dit... Et il me dit aussi, mais vous savez ce que ça veut dire? Je trouvais ça fou, quoi. Et donc, moi, j'étais... Alors, bon, après, j'en ai parlé à mon bien-aimé, que j'étais tout étonnée. Et il me dit, fais semblant de le savoir. Et bon, je ne fais pas semblant, donc je ne le savais pas. Que Aïda était la revenante. Et j'aime bien, en fait, la manière dont ça s'inscrit. Vous savez, encore une fois, quelque chose qui se fait un peu à l'aveuglette. Mais ça m'est souvent arrivé, ces histoires de noms, et je fais confiance aux noms qui surgissent. Et là, Aïda, Gilda, Violetta et Mimi, qui devait s'appeler Chao Chao San, mais c'était imprononçable, donc il a préféré l'appeler Mimi. Mais en même temps, c'est toutes des femmes fortes, mais c'est toutes des héroïnes tragiques.
Bien sûr.
Donc quand même, il leur met sur les épaules, il ne se rend pas compte en fait qu'il leur met sur les épaules quand même une forme de prédestination... violente. Mais comme on fait parfois avec... Enfin voilà, on ne se rend pas compte de la... qu'un nom, je suis persuadée qu'en fait, les noms, ça nous oblige. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'en fait, ce n'est pas anodin, quoi, le nom qu'on porte. Et parce qu'on va le porter, on va l'entendre tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et donc, on va finir par l'endosser, ce nom. Donc évidemment, elles sont des héroïnes tragiques.
Alors justement, Mimi, que vous évoquez, elle représente l'enfance, elle disparaît à 6 ans. On a soulevé lors de nos discussions, bien sûr, cette importance de l'enfance. Est-ce que la disparition de Mimi, ça représente la fin de l'enfance ou l'enfance perdue?
Bah, de toute façon, c'est la fin de l'enfance pour toute la famille. Là, à partir du moment où Mimi disparaît, et elle disparaît à 6 ans, et j'ai toute cette liste aussi sur souvenez-vous quand vous aviez 6 ans, souvenez-vous de ce que c'était d'avoir 6 ans, etc.
On avait prévu de le lire.
Ouais.
Mais
lisez-le.
Vous permettez?
Ouais.
Juste pour donner un aperçu à ceux qui ne l'auraient pas lu, justement. Donc, en page 33. Donc, souvenez-vous de cet âge où la vue d'un lit vous donnait envie de faire du trampoline et pas du tout de vous y assoupir. Souvenez-vous de cet âge où vous faisiez 8 fois le chemin qui menait à la plage parce que vous couriez devant les adultes et que vous reveniez sur vos pas pour aller les chercher comme un chiot impatient. Et puis vous repartiez en sens inverse et ils étaient si lents, si lourds et si bavards. Souvenez-vous de cet âge où jamais vous ne marchiez mais toujours sautillez, etc. Ça continue dans le... Voilà. Donc,
Donc en effet, 6 ans, il y a des âges comme ça qui me semblent... Voilà, 6 ans, c'est pleine possession de l'enfance. Mais c'est déjà l'orée de quelque chose qui est en train de partir. Et donc, évidemment, Mimi, elle va rester dans dans ce moment de grâce absolue, puisqu'elle disparaît à 6 ans. Et qu'on ne sait pas ce qu'elle est devenue pendant la majeure partie du livre. Et donc, les autres sœurs, donc qui ont 8, 10 et 12 ans, évidemment, elles basculent. Donc, c'est évidemment un grand moment de bascule. Donc, c'est la fin, de l'enfance. Et puis d'ailleurs, je dis clairement, en fait, à partir de 6 ans, souvenez-vous de cet âge, à 6 ans, vous sautillez, vous étiez comme un chien fou, vous croyiez que vous étiez merveilleux, que vous étiez la grâce incarnée, vous croyiez tout ça. Et après, vous avez la conscience de ce que vous êtes. Et le moment où elles ont conscience de ce qu'elles sont, conscience du drame qui leur est tombé dessus. Oui, c'est le début du livre, c'est quelque chose sur la fin de l'enfance. Ouais.
Encore sur le personnage de Mimi, mais bon, le fait que, bien qu'absente, elle est présente dans tout le livre, qu'il y a un chapitre à lui consacré, et que même si c'est un enfant qui parle peu, lorsqu'elle parle, elle prononce des phrases sibyllines, on les a définies et décalées dans sa bouche. Et quelqu'un, ici, dans le groupe, l'a qualifiée de piti. Oui.
Elle a quelque chose comme ça, en fait. Mais justement, dans son innocence même, parce que c'est une petite fille, elle est encore dans l'enfance, alors que les autres, elles commencent à en sortir. Et donc, elle a cette parole vraiment performatrice, qui est très particulière, Mimi. Et elle parle peu, en effet, et elle parle avec des phrases sibyllines, comme vous disiez, c'est très crypté, en fait. Et donc, comme c'est très crypté, comme c'est mystérieux, on peut les interpréter autant qu'on veut.
D'accord.
Alors juste pour en terminer sur Mimi, on a imaginé un lien entre la passion d'Aïda pour la physique quantique et justement la disparition de Mimi. On a même comparé Mimi au chat de Schrödinger. Donc le chat qui est dans la boîte, et tant qu'on n'ouvre pas la boîte, il est et mort et vivant. Donc est-ce que cette position permet finalement à Aïda de garder l'espoir ?
Ah bah oui ! C'est le fait que, oui, Aïda, elle s'est débrouillée avec la disparition de Mimi, avec sa passion pour les multiverses, quoi, pour sa passion pour la physique quantique, où elle dit, bon, ben voilà, tout est possible, elle est coincée quelque part, et le temps n'est pas exactement cette ligne qui va du point A au point B, telle qu'on nous l'a... On nous le décrit depuis qu'on est gamin. Parce que vous souvenez-vous, à l'école, vous avez des frises chronologiques. Vous avez l'impression qu'il va là, de là à là, le temps. Et à partir du moment où il y a d'autres théories, évidemment, sur le temps, qu'elle va adopter, elle, Aïda, avec beaucoup de modestie aussi, parce que c'est juste, elle lit des livres de vulgarisation scientifique, mais ça lui permet de se dire que Mimi n'a pas... Elle est coincée. C'est un truc qui revient souvent. Elle est coincée, quelque part. Parce que c'est plus facile de se dire ça. Elle pense ça. La mère, sa mère, Sylvia, elle est très relaxe avec tout ça parce que, de toute façon, elle considère que... Bon, elle ne croit pas à la mort, elle, de toute façon. Donc elle discute avec Mimi, elle la voit tout le temps. Enfin, c'est pas un problème. Mais c'est quelqu'un, un jour, qui m'avait dit un truc comme ça. Parce que, vous savez, en 4 ans d'écriture, j'ai eu le temps de me passionner pour plein de choses, dont la physique quantique. Et puis, j'ai entendu plein de choses, évidemment. Et donc, une femme, un jour, c'était sur une île, d'ailleurs, et c'était dans la Caraïbe, et elle me dit, elle me conduisait en voiture, puis elle me dit, je sais pas comment ça vient, c'était la nuit, donc c'est toujours, c'est bien, la nuit est propice, ce genre de confidence. Et elle me dit, j'ai vécu 6 vies antérieures, et conduit à tout perzingue, comme ça, à ma connaissance. Et je le fais dire à Sylvia, parce que ça m'avait sidéré, ce « à ma connaissance ». C'est parce que tout était dans ce « à ma connaissance ». C'est qu'en fait, elle n'était pas bien sûre, quand même, qu'il n'y en avait pas plus que 6. Alors toi, t'es juste là, ah, d'accord, ok. Moi, c'était plutôt le fait de vivre des vies antérieures qui me surprenait. Mais elle, non, elle, c'était ça, cette précision qui m'avait surprise. Donc, en effet, Sylvia, elle est un peu comme ça. Sylvia, elle a résolu le drame, elle. Les drames dans sa vie, elle les résout avec, en ne croyant pas à la mort. Ça, c'est plus facile.
Il nous reste pas trop de temps et 2 questions. Bon, une sur la géographie. Bon, parce que après, comme on a dit, le roman se situe à nouveau dans une île imaginaire, étouffante, qui enracine les personnages et les transforme en pierre lorsqu'ils s'installent. Et du coup, bon, on s'est demandé comment avez-vous choisi les personnages qui allaient rester et ceux qui allaient partir, se sauver ou être sauvés par leur départ, et aussi.
Est-ce que du coup, le fait de quitter l'île, c'était la seule solution pour se libérer de cette colère, justement lourde comme la pierre ?
Ah oui, alors ça, c'est un truc qui revient souvent dans mes livres. Hein. On rencontre l'émancipation, le départ. Mais parce que je suis assez convaincue qu'il faut partir pour pouvoir. Qu'en fait, la stagnation. La stase, c'est quelque chose, il me semble, d'assez dangereux. On devient, on se fossilise, on devient un caillou. Et donc, en tout cas, il vaut mieux, on peut retourner là, à l'endroit où on était caillou, mais c'est bien d'aller faire un tour, quand même, je pense. Donc, c'est quelque chose qui revient souvent dans mes textes. Et donc, c'est ce motif de l'île. Évidemment, l'île est à la fois enfermante et protectrice. Parce que si on reste à l'endroit où on est né, si on reste, c'est parce que finalement, c'est pas si inconfortable. Parce que si je ne sais plus quel écrivain disait, c'est merveilleux de naître dans un village épouvantablement laid, et parce qu'en fait, on n'a qu'une envie, c'est de partir. Et en fait, le problème, c'est que parfois, on n'a pas envie de partir parce que justement, ça va, c'est relativement, c'est pas génial, mais c'est relativement confortable. Et je suis, mais ça c'est vraiment, ça n'engage que moi, assez convaincue qu'il faut partir pour essayer autre chose. Et donc, pour essayer autre chose. Et puis, de toute façon, c'est, voilà, c'est, il faut savoir rompre, en tout cas. Et donc, là, évidemment, l'île, c'est assez parfait pour ça comme motif. Alors, évidemment, vous avez soit vous restez et vous êtes enfermé, en fait. Vous choisissez de rester comme ça. Soit vous décidez de partir. Et partir, c'est vraiment plus complexe et plus compliqué à mettre en pratique. Et puis, de toute façon, les îles, c'est aussi quelque chose qui m'a toujours beaucoup intéressé. Les îles, l'état d'esprit insulaire. Je parlais à un moment donné je disais qu'en fait, il y a quelque chose de souvent paranoïaque chez les insulaires. Il y a peut-être des insulaires ici, des îliens. Mais vous voyez, quelque chose où on se sent plus assiégé. Et c'est normal, je pense, parce qu'en fait, on est justement dans un lieu clos. Donc, c'est plus complexe. Je trouve que c'est quelque chose d'assez complexe, en fait, d'être un îlien. Et qu'on est, en effet, en permanence dans une injonction qui serait contradictoire, qui est « j'ai envie d'aller voir ailleurs et en même temps, je suis bien sur mon île, dans mon fief ». Donc, et puis, voilà, moi, j'ai rencontré plein d'insulaires et ils ont... Et quel que soit l'endroit d'où ils viennent, c'est marrant, que ce soit justement la Caraïbe, que ce soit j'étais à l'Île-Dieu la semaine dernière, ou que ce soit la Corse, ou que ce soit la Sicile, justement, c'est quand même toujours très surprenant. Il y a vraiment un état d'esprit très particulier. Donc, ça, c'est à explorer, c'est tout à fait passionnant. Et donc là, ça met en scène beaucoup de nos travers, hein, et de nos peurs aussi. La peur de l'extérieur, et est-ce que je vais avoir le courage d'aller me frotter au monde ? C'est pas facile.
Alors juste pour terminer justement par rapport à la fin du roman, donc la fin du roman, ça ressemble à l'acte final d'une pièce de théâtre, hein, le rideau tombe, donc la vérité éclate pour Aïda et pour le lecteur. Donc, et la narratrice d'ailleurs nous laisse avec cette phrase « j'ai envie de les laisser là ». Donc certains ont pu avoir le sentiment d'une sorte de libération, donc le fait que les personnages puissent continuer à exister, finalement, indépendamment de nous tous, à la fois vous et nous, lecteurs.
Et en connaissant aussi le secret qui emprisonne la famille Salvatore, on apprend avec Aïda pourquoi et comment Mimi a disparu. Mais au lieu de cet événement, au lieu de dénouer en fait, la situation entre les sœurs, la famille a créé un autre nœud familial, un autre secret, avec un mouvement qu'on a comparé au ressac des vagues sans fin. Et du coup, notre question finale, c'est donc de savoir pourquoi empêcher vos personnages de se faire face dans une dernière confrontation.
Ah ben attendue par nos lecteurs. Je ne voulais surtout pas de confrontation. Le truc apocalyptique, là, avec le truc hollywoodien où elles vont s'arracher la tête, les sœurs. Non, je ne voulais pas ça. Surtout pas. Je voulais quelque chose de plus... Aïda, elle est pas comme ça. Elle est en colère, mais elle sait exactement là où ça fait mal. Et je la trouve plus mal. Enfin, elle voulait pas en fait les confronter violemment, parce qu'elle n'est pas comme ça. Et je pense que c'est assez malin de sa part. Parce qu'en fait, finalement, elle repart avec en minant. Finalement, elle mine l'île d'une certaine façon. Mais elle ne le fait pas, il n'y a pas la grande explosion. C'est un peu sibyllin là aussi, hein, pour ceux qui n'ont pas lu. Mais en fait, on ne peut pas tout dire.
Alors peut-être qu'il y a des questions justement par rapport au peut-être aux lectrices, aux belles lectrices et aux beaux lecteurs ou aux personnes présentes dans la salle. Donc si vous avez des questions, c'est le moment.
Tout à l'heure, on a évoqué le travail d'artisanat. Moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment intéressé dans vos romans, c'est l'architecture, c'est-à-dire la façon dont les différentes scènes sont construites et articulées. Et alors, j'aurais voulu savoir comment vous travaillez autour de ça. Est-ce que ça se fait avant, pendant ou après? Mais je trouve qu'effectivement, vos romans sont extrêmement architecturés et construits.
Merci pour cette question, parce que c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, à la structure. En fait, pour tout vous dire, je trouve que ce qui pêche le plus dans les manuscrits que je peux recevoir dans mon autre vie d'éditrice, c'est souvent la structure. Des gens qui savent écrire, il y en a plein. Et des gens qui savent raconter des histoires, il y en a aussi. Mais la structure, c'est souvent ça pêche. Et donc, c'est souvent ce que j'explique aux auteurs. Je leur dis, pense à ton échafaudage. Il faut que ça tienne debout. Et il y a aussi un truc que je leur dis toujours, ne laisse pas trop de portes ouvertes. Parce que les portes ouvertes, c'est tes promesses. C'est, on lance quelque chose, puis on le laisse de côté, on se dira, le lecteur oubliera. Mais le lecteur n'oublie pas, en général. Et la structure, ça fonctionne au fur et à mesure de l'écriture. Et parce que c'est quelque chose auquel je tiens absolument. Donc, mes livres, en général, à un moment donné, j'écrivais des livres où je pouvais déplacer les chapitres et je réfléchissais. Vera Candida, je crois que je l'ai un petit peu fait. J'ai déplacé des chapitres. Mais sinon, là, c'est assez rare. Je crois que je déplace assez peu de chapitres. Je crois que j'en ai fait quelques, peut-être, je l'ai fait un petit peu. Mais en général, c'est plutôt tenu du début à la fin, en fait. Je crois que je l'ai fait. J'entends tout en parlant, je suis en train de me dire, non, j'ai dû déplacer des choses. Mon éditrice le saurait, elle est là. Mais en général, j'avance quand même en étant. Je suis très obsessionnelle, hein. Donc j'avance tout en sachant très très bien ce qui s'est passé avant et justement je n'ouvre jamais, je ne laisse jamais ouverte une porte si j'oublie pas en fait qu'elle est ouverte la porte. J'oublie pas les promesses que j'ai, les petits cailloux, vous voyez, du petit pousset là. Je les oublie pas parce que c'est pas possible en fait, sinon ça fonctionne pas et l'échafaudage tout à coup devient branlant. Donc la structure pour moi elle est tout à fait fondamentale. Dans chacun des textes et c'est elle se fait au fur et à mesure. J'aurais du mal à vous dire comment ça marche. Déjà pour écrire la nuit, je me replonge quand même dans le texte, donc je relis ce que j'ai fait la veille et donc je me mets et puis après je continue à écrire. Et la journée, évidemment, je vais corriger, j'ajoute quelque chose, je retire quelque chose, je défalque, voilà. Je c'est pas énorme. Mais ça va être quand même peaufiné. Et puis de toute façon, après, il y aura une relecture. Et puis tout est évidemment rien n'est laissé au hasard, ni au la ponctuation, ni rien du tout, ni la moindre répétition. C'est quand même toujours très très important. Moi, j'étais correctrice avant, j'étais préparatrice de copies, donc je suis un peu pointilleuse. C'est pas mal de choses. Donc je corrige, mais pas de manière démesurée. Je fais assez confiance aussi quand même à ce premier jet. Mais en même temps, ça ne me gêne pas de supprimer un chapitre, par exemple, si je sens que ça ne colle pas. Enfin, un chapitre entier, ça m'arrive rarement. Enfin, je vous dis ça, mais en fait, ça m'arrive carrément, c'est très souvent, entre deux livres, c'est aussi pour ça que je mets tellement de temps entre deux livres, je commence très souvent un autre texte, et c'est ça qui me déprime un peu, là, c'est parce que là, je n'ai pas encore commencé quoi que ce soit, et je sais que je vais en commencer un, je vais écrire 60 pages ou 100 pages, et je vais le jeter. Donc, ça se fait toujours comme ça, entre deux textes, donc je me dis bon allez et puis au fur et à mesure de l'écriture de ce livre j'ai été très souvent assaillie par la quoi bon. Je me dis mais pourquoi je fais ça. Alors j'écris depuis que j'ai 7 ans donc je sais pas trop quoi faire d'autre en même temps et en même temps je suis très habitée par tous ces gens à l'intérieur de moi et toutes ces petites voix parasitaire, mais parfois je suis un peu assaillie. C'est normal. Hein. Qui ne le serait pas? C'est Bernanos qui disait que le démon de son cœur, c'était l'aquabon. On ne peut pas faire grand-chose sans aquabon.
Eh bien, merci beaucoup. Du coup, je pense qu'on peut
vous applaudir. Merci à vous. Hein. Merci bien.
Merci. Merci. Merci encore.
Merci beaucoup.
Le festival Oh les beaux jours remercie Élodie Caraki qui a accompagné le club des beaux lecteurs ainsi que les bibliothèques de la ville de Marseille. Annabelle, Marie, Ludovica, Deleia, Fortuna, Églantine, Karine, Dufal, Jessica, Véronique, Laurence, André, Marie-Jeanne, Marouane, Cécile et Joël sont les beaux lecteurs et les belles lectrices de l'année 2023. Pour vous inscrire à ces ateliers littéraires mensuels gratuits et ouverts à toutes et à tous, rendez-vous sur le site olesbeauxjours.fr, rubrique Action culturelle. Les références bibliographiques de l'autrice sont disponibles dans le descriptif du podcast. Pour ne manquer aucun épisode des Frictions littéraires, abonnez-vous à ce podcast sur toutes les plateformes habituelles. La 8e édition du festival Oh les beaux jours aura lieu du 22 au 26 mai 2024 à Marseille. Montage, Arthur Jam. Voix, Benoît Pacteau. Un podcast produit par Des livres comme des idées.